Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je vous partage un épisode à trois voix sur In Power avec Stéphane et Marjorie, les fondateurs de la marque de cosmétiques et de make-up bio Charlotte Bio. Vous ne connaissez peut-être pas encore la marque Charlotte Bio, implantée aujourd'hui dans plus de 700 boutiques en France et disponible en ligne, mais même si ce n'est pas le cas, croyez-moi, je vous conseille sincèrement d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Parce que l'expérience de Stéphane et Marjorie est précieuse, ils ont chacun à leur actif plus de 20 années d'expérience dans le monde de l'entreprise, dans la création de boîtes, en passant par le consulting ou encore à l'évolution de postes au sein d'une même entreprise. Donc je pense que chacun et chacune d'entre nous peut s'y retrouver dans les conseils qu'ils ont à nous partager. La force de leur expérience, c'est que Stéphane et Marjorie sont aujourd'hui en capacité de nous donner de nombreux conseils, que ce soit sur la genèse d'un projet, son financement, son développement, mais aussi sur ce qui est fondamental à leurs yeux, les relations humaines. Et c'est ce que l'on oublie souvent au quotidien, je trouve, ce qui régit nos relations, personnelles comme professionnelles, c'est l'humain. Alors comment connecter avec lui? Comment nouer des relations de confiance? Comment embarquer les autres dans nos aventures? C'est tout le sujet de notre conversation et de nos réflexions avec Stéphane et Marjorie. Si vous n'écoutez pas In Power pour la première fois, c'est peut-être que vous appréciez le podcast, et si c'est le cas, vous n'avez peut-être pas encore pensé à vous abonner sur Apple Podcasts ou directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. C'est gratuit et ça vous permet d'être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous êtes vraiment extra, vous pouvez même laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts avec un petit mot dans les commentaires. Je les lis chaque semaine et ça me fait extrêmement plaisir. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Stéphane et Marjorie. Bonjour Marjorie, bonjour Stéphane.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur In Power. Je suis enchantée de vous recevoir aujourd'hui. La première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Dites-moi tout.
Je commence. Alors, vas-y, je te laisse commencer.
Moi, je suis Marjorie, j'ai 43 ans. J'ai deux enfants, deux ados, Elena et Titouan. Je suis normande, j'habite à côté de Caen, dans un petit village qui s'appelle Luc-sur-Mer. Donc, je suis ravie. Voilà. Et aujourd'hui, on est là pour parler de notre marque, notre boîte. Moi, je suis déjà de Charlotte Bio.
Ouais.
Je suis aussi co-créatrice de la gamme de maquillage qu'on a lancée il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. Et on s'éclate. Voilà. Donc, on est aussi là pour vous raconter tout ça.
Trop cool. À toi, Stéphane.
Alors, moi, je m'appelle Stéphane. Je suis un peu plus âgé. J'ai 49 ans. J'ai deux enfants aussi, deux garçons de 16 et 19 maintenant. J'habite Neuilly et je suis cofondateur et président de CBE, notre petite entreprise.
Ouais, donc de Charlotte Bio, je crois qu'on n'a même pas encore dit le nom, donc disons-le. Ouais. Vraiment, tout de suite, je me dis, est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de Charlotte Bio? Stéphane, je crois que du coup, c'est toi qui as initié la création de cette marque. Qu'est-ce qui a fait que tu te sois dit, je vais lancer une gamme? Alors en plus, je crois qu'à la base, c'était des produits pour enfants, c'est ça, hein?
C'est ça, ouais.
Qu'est-ce qui a fait que...
En fait, c'est la vie, c'est les rencontres.
Ouais.
Voilà. Toute cette aventure-là, c'est qu'une histoire de rencontre, qu'une affaire de rencontre. Donc, je déjeunais assez régulièrement avec un pote à moi qui s'appelle Benjamin, qui a une boîte de cosmétiques bio, une autre marque. Et puis, en discutant avec lui en échangeant sur son business, on s'est rendu compte que son business à lui, qui est une marque qui est disponible en magasin spécialisé bio, connaissait une sorte de petit palier, quoi, tu vois, un développement qui est un joli développement, mais qui commençait à connaître un plateau. Et en discutant avec lui, on se disait, la suite logique de l'histoire, la suite logique de la création, du développement de cette marque, c'est d'aller en grande distribution. Sauf que, à ce moment-là, aller en grande distribution, d'ailleurs, c'est encore plus vrai aujourd'hui, c'est une aventure assez robuste, quoi, c'est quelque chose de sérieux, c'est pas un truc que t'improvises comme ça au coin d'une rue. Et moi, j'avais un peu de temps disponible parce que je venais de terminer ma précédente expérience. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Je ne sais pas si on a l'occasion de parler un peu de ce qu'on a fait précédemment. Et puis, donc, comme j'avais un peu de temps, je suis allé m'installer à son bureau et on a discuté. On a trouvé ça assez logique de faire une nouvelle marque. Donc, Charlotte, alors sa marque historique, je ne l'ai pas citée, c'est Marie-Lou, parce que Marie-Lou, c'était le prénom de son épouse. Et puis, on a décidé ensemble de faire une marque qui s'appellerait Charlotte, parce que Charlotte, c'était le nom de sa petite fille. Et donc, on a démarré par le bébé parce que lui, il avait déjà un projet en tête autour d'une gamme baby, et puis qu'il avait vraiment, mais alors c'est pas une façon de parler, parce que souvent on dit
on raconte des histoires
qui sont storytellées ou qui correspondent, tu vois, un peu à des idées reçues, mais vraiment, véritablement, le projet, il était dans sa corbeille. C'est-à-dire qu'il l'avait pris, il s'est dit, c'est trop cher, j'y arriverai pas, je vais pas trouver le modèle économique, je vais pas trouver l'équation qui fonctionne. Bon, il l'avait remisé là, et puis moi j'avais un peu de temps, donc je suis allé m'installer à son bureau. Vraiment, il avait un bureau libre, j'ai repris le dossier, je l'ai ressorti de là où il était. Et puis on a retravaillé l'équation, on a rebossé le sujet avec nos différents prestataires, etc. Et comme ça est né Charlotte Baby, qu'on a mené en grande distribution. Alors on a d'abord eu la confiance de Monoprix, puis de Franprix. Et puis on a comme ça connu un développement qui nous mène aujourd'hui à notre aventure, qui est l'aventure principale.
Ouais.
Et qui est là encore une autre rencontre, la rencontre avec Marjorie. Mais ouais. On va y revenir. Autour du make-up, parce que l'actualité de l'entreprise, la réalité de l'entreprise qui l'a fait vivre aujourd'hui, c'est vraiment le make-up, quoi.
Ok, bah, du coup Marjorie, parfaite transition pour que toi tu me dises peut-être qu'est-ce que tu as fait avant Charlotte Bio et qu'est-ce qui a fait que tu as rejoint cette aventure et que tu as rencontré Stéphane.
Ouais, t'as 3 heures.
Allez.
Non, alors moi effectivement, moi j'ai fait des études de commerce, si on revient vraiment au démarrage, ouais. Tu vois, on parle d'il y a 20 ans, hein, donc j'ai fait des études de commerce, dernière étude commerce, je ne savais pas trop où aller après, mais en tout cas, voilà, je savais que j'étais dans la bonne voie. Je suis partie en Australie, bosser pour le distributeur de Clarins, et là je me suis dit, tiens, la cosméto c'est cool,
ouais.
C'est sympa et tout. Je ne peux pas dire que j'étais une fanade cosméto quand j'étais petite. Je n'étais pas là à piquer tous les rouges à lèvres de ma mère. Non, c'est faux. Ce n'est pas la vraie histoire. Mais par contre, j'ai découvert ce milieu. J'ai découvert les produits. J'en consommais un peu, mais pas tant que ça. Et puis, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et la marque Clarins, vraiment super aussi. Enfin, voilà. Je suis revenue en France.
Alors, si je peux me permettre de te demander, ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu allais en Australie? Parce que c'est quand même pas à côté.
Si tu veux 6 mois de stage.
Ah ouais, ok.
Voilà, et puis...
Et eux avaient une opportunité
et
là-bas.
Eux, ils avaient une opportunité là-bas. Et puis, ça s'est fait assez naturellement. Et finalement, assez simplement aussi.
D'accord.
Donc, du coup, j'ai pris un billet d'avion. Et puis, voilà.
Ouais, oh, c'est fou.
Et c'était sympa. Ouais. Voilà. Bon, après, t'arrives en Australie, t'as l'impression d'être au bout du monde. Finalement, tu rencontres énormément de Français quand même. Et
d'accord.
Déjà, il y a 20 ans. Aujourd'hui, ouais. C'est vraiment encore plus le cas.
Ouais.
Mais il y a 20 ans, finalement, moi, je pensais faire un truc de fou, incroyable et tout. C'était le cas pour moi.
Ouais.
Mais en fait, je suis arrivée sur place, je suis à Paris.
Ouais, et puis c'est vrai que bon, c'est,
ouais,
très
c'est bien et pas bien
aussi,
parce
quoi.
Qu'en même
ouais.
temps, ça te conforte, ça te rassure aussi. Bon, finalement, après, moi, tu te dis, j'aurais peut-être préféré aussi être qu'avec des Australiens.
Ouais. Ouais.
J'ai rencontré de Français et tout. J'ai fait qu'une super expérience, c'était vraiment sympa. Et quand je suis rentrée, du coup, j'ai découvert un DESS en market, cosméto, parfumerie et tout, association Isipka et Sec. Et du coup, bah voilà, j'y suis allée et ils proposaient en alternance. Donc, j'ai trouvé ça super. Alternance, très bien, il faut que je trouve la boîte. Enfin, là, je me suis dit, il me faut vraiment une boîte qui ait du sens. Moi, je n'avais pas du tout envie de faire du market pour faire du market. Du market ouais. à la L'Oréal, en fait, je n'avais pas du tout envie de ça. J'avais vraiment envie d'un market un peu responsable.
Ouais.
Du market, et je me suis dit, du market pour une marque que tu achètes en pharmacie, derrière, il y a une vraie crédibilité, il y a des vrais enjeux. Voilà, ce n'est pas du flan, quoi.
Mm.
Et ça m'intéressait vraiment. Et là, rapidement, bah voilà, j'ai postulé, etc. Et j'ai été prise chez Laboratoire Expansion pour la marque Mustela. Donc, dans les soins du bébé aussi. Tu vois, Stéphane, l'histoire de Charlotte, c'est soins du bébé. Moi, c'est vrai que le début de ma carrière, c'est aussi dans le soin du bébé. Donc, moi, j'avais 23 ans à l'époque. Soins du bébé, donc chef de produit. Après, voilà, je suis restée 8 ans dans cette boîte où je me suis bien éclatée. J'ai appris plein de trucs, plein de rigueur. Tu vois, vraiment, on t'apprend à développer un produit cosmétique, on t'apprend à développer l'international, on t'apprend à travailler avec des filiales, à intégrer une culture vraiment globale aussi, puisque la marque est distribuée partout dans le monde.
Ouais.
Donc, en fait, voilà, des grosses rencontres aussi qui ont marqué ma vie d'après, enfin, qui vraiment te transforment aussi. T'apprends à grandir, parce que quand t'as 23 ans et que tu démarres dans la vie professionnelle, bah, tes rencontres, elles sont ultra précieuses.
Ouais.
Donc, voilà, j'ai eu mes 2 enfants à Paris. Donc assez rapidement, parce qu'en plus quand tu bosses dans l'univers du bébé, bah, finalement voilà, donc j'ai eu ma fille à 28 ans, Elena, et 2 ans après Titouan est arrivé, et là ok, on vit à Paris dans un appart de 60 mètres carrés, c'est cool, c'était cool, c'est un peu moins cool, voilà, quand il faut payer la babysitter, que tu sors vraiment de moins en moins et que finalement aller faire l'expo même au Grand Palais, bah, c'est quand même l'expédition,
ouais.
Bah, t'y vas plus, tu fais plus rien. Et là, moi, j'ai grandi à la campagne. On y reviendra peut-être ou pas. En tout cas, je me suis dit, c'est pas possible. Mes enfants, ils peuvent pas grandir ici. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti. Donc, j'ai un peu cherché. On s'est dit, avec mon mari, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On y va, on n'y va pas. Ok, on cherche, on verra. J'ai trouvé. Lui, il n'avait pas trouvé. Alors, clairement, il avait un gros job et tout. Il s'est dit, c'est pas grave. j'y vais, on y va.
Okay.
Notre vie, elle est ailleurs, en
ouais,
fait.
Ouais.
Donc, on est parti, puis on part en Normandie. On partait pas non plus à l'autre bout du monde, ouais, si tu veux. À un moment donné, ça va. Et puis là, voilà, il n'y avait pas de prise de risque, hormis une nuit démissionnaire, si tu veux.
Ouais.
Donc, mais voilà, on aurait rebondi. Donc, on est parti, on s'est installé en bord de mer et,
ouais,
et on y vit toujours.
Ouais.
Voilà, c'est une réalité. Donc, après, voilà, moi, je suis partie, j'ai bossé pendant 8 ans dans le groupe Batter, le laboratoire Gilbert, pour toutes les marques de cosméto du groupe. Différents postes aussi, responsable marketing, etc., pour toutes les marques. Donc, c'était très sympa. J'ai fait ça pendant 5 ans. Et les 3 dernières années dans le groupe, hein, j'ai travaillé en sous-traitance cosmétique.
Mm.
Et là, je me suis éclatée. Vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré pour plein de raisons, parce que j'étais à la rencontre de plein de jeunes marques, plein de clients, des jeunes marques comme Charlotte Bio, qui arrivent avec un vrai projet de « Ok, c'est super, j'ai envie de créer ma marque. Par contre, je cherche un partenaire industriel pour créer mes produits.
Mm. »
Et là, du coup, voilà, moi, j'avais la responsabilité d'accompagner ces marques pour créer, vraiment mettre sur pied, transformer leur vraie idée, si tu veux, en produit réel que tu poses sur la table et que tu poses après sur les linéaires ou sur les e-shops, quoi.
Ouais.
Et du coup, c'était super parce que tu rencontres des jeunes marques que je vois aujourd'hui mais grossir énormément. Et je me suis dit, putain, on était là, on était à la genèse de leur histoire et on les a accompagnés pour que, voilà, transformer toutes leurs idées et faire en sorte que leurs produits aujourd'hui qu'on a créés pour eux, ils soient sur le marché et qui sont, voilà, et ces produits se retrouvent dans les mains de plein de consommatrices qui les adorent,
ouais,
quoi.
C'est assez gratifiant.
Donc en fait,
de
c'est
voir,
super. Ouais. Et puis tu rencontres des gens super, des gens avec déjà des ambitions de fou, de la persuasion, des talents, des personnalités hyper fortes, parce que franchement, il y a beaucoup de gens qui ont ton âge aussi et qui se lancent direct, qui se disent allez, j'ai pas peur, j'y vais. Je crée ma marque et puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave, je ferai autre chose. Moi, j'avais pas cette ambition-là et cette force, cette énergie aussi que vous aviez aujourd'hui. Quand même, vous êtes nombreux, beaucoup plus nombreux qu'il y a 20 ans.
Ouais, je pense qu'on nous montre que c'est possible, quoi. Et les
réseaux
sociaux sont une belle fenêtre pour ça, quoi. C'est... on se rend compte que des gens le font, donc on se dit pourquoi pas moi, et après on se rend compte des galères au fur et à mesure, alors que peut-être qu'à votre époque, vous aviez plus conscience des galères, justement, des risques. Et...
Ouais, puis c'était différent, si tu veux, à notre époque. Ça fait un peu vieux de dire ça, quand même.
Parfois, je me retrouve déjà à dire ça, dans une moindre mesure, mais pour des usages de téléphone. Quand je vais un truc avec des amis, on est là. Moi, à leur âge, j'avais pas encore de téléphone. Donc, je sais ce que ça fait, mais vous inquiétez pas, je crois que c'est tout.
Ouais, moi, souvent, quand je dis à mes enfants, mais vous savez qu'on a grandi, nous, sans Internet. Enfin, vous savez que moi, j'ai étudié sans Internet.
Non, mais les usages changent plus vite, quand même.
Oui, les usages changent très, très vite.
Beaucoup plus rapidement. Donc, ça segmente beaucoup plus, ça clive beaucoup plus les générations.
C'est pour ça que nous, déjà, on voit un petit gap avec la génération d'en dessous. Voilà, qui ont 15-16 ans.
Les tranches générationnelles, elles se sont retrécies.
Ouais, totalement. Ouais, mais c'est vrai que c'est assez dingue de dire que vous avez quand même étudié sur Internet. Comment vous auriez fait là en ce moment les cours vous, c'était peanut.
Je sais pas.
Et en même temps, on a réussi quand même à apprendre des trucs. On ouvre beaucoup plus de livres, évidemment.
Non, mais ça existait déjà de notre temps, l'éducation à distance. Ça existe encore toujours, c'est le CNED.
Oui, c'est vrai.
Non, mais le CNED, c'est pas très sexy. C'est-à-dire que tu reçois des. Moi, je l'ai fait.
D'accord.
Pour compléter mes études.
Ouais.
Tu reçois des dossiers à compléter à la maison, c'est très papier, tu ouvres ça, c'est...
Ça fait un peu cahier de vacances, quoi.
Ouais, c'est pire.
C'est ok,
pire,
c'est
parce que tu vois, t'as pas le papier glacé avec le petit bonhomme qui te sourit.
T'as des
feuilles jaunes, écrit en petit, ça te fait pas rêver, ça ressemble plutôt à un examen permanent.
D'accord.
T'as l'impression que t'as perpétuellement les sujets du bac qui t'arrivent dans ta boîte à lettres.
D'accord.
T'as pas très envie, en fait.
Ouais. Non, mais c'est sûr. Après, parfois je regrette cette époque en me disant, je sais pas, j'ai l'impression que pour le cerveau, il y avait moins de sollicitations en fait.
Ah ouais, bien sûr.
Franchement, bien sûr, moi j'ai un peu peur de la sur-sollicitation de mon cerveau.
On a besoin de même pas 10 secondes pour aller vérifier son net aujourd'hui.
En fait, vraiment, je me dis sur le long terme, il n'y a pas encore d'études, je crois, qui ont été faites. Mais pour moi, il y a vraiment ce truc de. Le cerveau maintenant est distrait en permanence, il a toujours la distraction à portée de main.
Et puis on
la sur-sollicitation.
On range des choses vraiment radicalement différentes de notre cerveau, dans un ordre différent. Quand nous, on était jeunes, on apprenait des centaines de numéros de téléphone par cœur. On n'en a plus un seul maintenant.
C'est clair.
Là, on ne range pas les mêmes trucs dans le cerveau.
On fait moins utiliser...
Maintenant, on range peut-être des accès. On retient des accès vers l'information.
On retient plus nos mots de passe.
Tu retiens les mots de passe, tu retiens la clé vers la connaissance, mais tu retiens pas forcément la connaissance
elle-même.
Ouais. C'est sûr. Et ça, je pense que malheureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas de retour. Ouais, quoi. C'est no coming back.
C'est un mot qui évolue, ouais.
Ouais. Mais bon, du coup, si on revient à nos moutons, moi,
nos grands-parents ont connu pire. Nos grands-parents, ils ont connu l'avènement de la télé, l'avènement de la radio.
Ils ont vécu vraiment. Mais
pour ça, aujourd'hui, c'est quand même compliqué pour eux aussi de passer au digital. Ouais. Mais en même temps, d'où ils viennent, quoi.
Ouais. Et pourtant, il y en a de plus en plus. Hein. Moi, je sais que ma grand-mère, elle a un iPad, elle adore Netflix. Et c'est incroyable de se dire, ok, elle a connu la Seconde Guerre mondiale.
Ouais.
Aujourd'hui, elle regarde des séries sur la Seconde Guerre mondiale sur Netflix, quoi.
Ouais, c'est...
C'est assez beau, je trouve, moi, la capacité d'adaptation de l'humain au final.
Oui.
Après, certains sont réfractaires, d'autres non, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez beau. Et je me demandais, là, quand on parlait de ces jeunes qui lançaient leur marque, toi, du coup, si jamais tu les as côtoyés, peut-être qu'est-ce que tu as remarqué sont les erreurs, on va dire, les plus fréquentes que peuvent faire des jeunes qui se lancent comme ça et qui viennent te voir. Tu as dû en voir quand même certains qui ont survécu, d'autres non.
Mmh.
Est-ce qu'avec leur recul, tu peux nous dire un peu ce qui les différencie?
Ouais, alors après, il y a la force du concept, souvent,
ouais.
Tu vois. La persuasion et la personnalité aussi de l'individu. C'est-à-dire, à un moment donné, tu ne peux pas créer une marque si tu ne partages pas les valeurs de ta marque. Et ça, tu vas le voir et ça va se vérifier sur plein de créateurs. Je peux pas forcément citer les marques que j'ai accompagnées, mais moi, il y a une marque, quand on a vu la fille arriver, elle avait un concept mais complètement barré. Mais en fait, il était juste avant-gardiste.
Ouais.
Et aujourd'hui, on ne parle pas que d'elle, mais en tout cas, de son concept, il a été repris.
Ouais.
Le microbiome cutané, si tu veux, aujourd'hui, on en parle beaucoup dans la cosméto.
Ouais.
Et elle a été aux prémices. Ouais. Et quand on l'a vue arriver avec tout son dossier, elle était docteur dans ce domaine, on s'est dit « waouh ». Et aujourd'hui, elle est référencée chez Sephora en Asie. Enfin, elle a quand même aussi des belles histoires, des belles success stories. Donc, c'est cool de suivre des personnes comme ça. Après, j'en ai plein d'autres. Et après, effectivement, il y en a. Tu les sens plus fragiles, mais tu le perçois assez vite, finalement.
D'accord.
Parce qu'au fur et à mesure, tu rencontres ces nouvelles marques. Mais on n'accompagne pas uniquement des nouvelles marques aussi. Tu vois, il y avait aussi des grandes marques qui venaient nous voir pour fabriquer une spécificité.
Parce que vous, c'était vraiment des nouvelles formules. Parce que je sais que j'en parlais en plus avec un ami récemment. Il me disait, en fait, dans la cosmétique, tu as trois façons de commencer. Soit tu es expert et du coup, tu crées ta propre formule parce que tu as la capacité. Soit tu fais appel à des laboratoires qui créent des formules en marque blanche.
Mm-hmm.
Du coup, des formules qui existent et voilà, tu les
pimpes. En fait, c'est pas forcément leur formule, du coup.
Exactement.
Voilà. C'est des formules qui existent partout.
Des formules qui existent et ils vont les brander, et peut-être rajouter un actif ou une odeur.
Exactement.
Ou tu développes une formule propre, la tienne, que tu peux même breveter, etc.
Mais en fait,
c'est vrai qu'on n'a pas conscience.
Il y a vraiment deux
cas
de figure, si tu veux. Il y a effectivement, soit tu choisis un peu une formule dans le catalogue et puis tu vas l'agrémenter. Soit effectivement, là, tu pars d'un vrai concept, ou alors tu vas aller sourcer ton ingrédients, tu vas aller sourcer plein de choses avec le laboratoire. Du coup, là, c'est beaucoup plus long aussi.
Ouais.
Voilà.
Et vous, vous faisiez les deux ou vous faisiez...
On faisait les deux.
D'accord, ok.
On faisait les deux, mais finalement, on développait beaucoup plus les formules.
D'accord.
Après, on avait quand même cette capacité, moi, c'est un peu toujours mon moteur, aller plus vite que les autres.
tu parles de vous, Charlotte Bio, ou laboratoire.
Oui, non, mais oui, puis moi, c'est un peu mon moteur, mon moteur dans la vie, c'est-à-dire que on allait plus vite que les autres parce qu'il faut se donner les moyens aussi d'aller vite, tu vois. Et c'est vrai que quand tu avais des jeunes créateurs qui arrivaient et qui disaient « Ouais, mais là, en fait, on est en pleine levée. On a promis de sortir notre marque, nos produits, là, dans 6 mois. Ah oui, mais là, vous m'annoncez des délais de 12 mois. Comment on va faire ?» Ben, on va essayer d'y arriver ensemble. Tu raccourcis tous les délais, tu prends les risques qu'il faut. Parce que tout ça est une question de risque. De risques financiers, beaucoup, souvent. Et puis après, des risques humains, enfin voilà.
Non, mais c'est rafraîchissant quand même de l'entendre, parce que pour avoir créé ma marque aussi de souhaitement, quand même, c'est difficile, je trouve, de convaincre notamment les pontes quoi, qui font ce qu'ils font depuis des années. Et quand toi, tu veux un peu les secouer en mode « bah ok, peut-être que jusqu'ici, vous mettiez un an parce que les grandes marques, elles arrivent à produire leur collection un an à l'avance. Mais en fait, moi là, j'ai annoncé à ma communauté que je lançais ma marque avant même de la lancer. Je ne peux pas les faire attendre 2 ans, quoi. Et on
en fait
face à beaucoup.
Tu n'as plus le choix, du coup. Tu as annoncé le lancement, donc tu n'as plus le choix de le réussir.
Ouais, c'est clair.
Et
ouais,
à partir du moment où tu n'as plus le choix.
C'est clair.
Tu
dépend pas que toi, c'est quand même frustrant. Parce que du coup, je ne viens pas d'usine. Il fallait convaincre d'autres partenaires. Et on a fini par en trouver qui étaient prêts à relever le défi. Et au final, on a quand même mis bien une bonne année quand même entre le moment où on a commencé à bosser sur les protos et les derniers protos finaux, quoi. Mais c'est vrai qu'on avait fait face à beaucoup de gens qui nous disaient, en fait, non. En fait, nous, on n'a pas l'habitude de faire ça, donc salut. Et je sais, j'ai l'impression que la cosmétique bouge peut-être un peu plus vite que le monde de la mode, mais il y a comme ça encore des milieux, non?
Non, non, t'as raison. En fait, ce que vous exprimez là, toutes les deux, c'est la confrontation entre le monde d'aujourd'hui qui veut aller vite, les réseaux sociaux, l'état d'esprit, ce dont on a parlé tout à l'heure, les nouvelles générations, etc. Et puis les attentes des entrepreneurs d'aujourd'hui et la réalité de l'industrie.
Ouais.
Des industries qui sont pleinement implantées dans notre pays. C'est-à-dire qu'on vient de citer, sans faire gaffe, deux des trucs qui font que la France... s'exporte, que la France rayonne, que la France existe et que la France est reconnue internationalement. C'est-à-dire, en gros, l'habillement, mais un peu de luxe, en tout cas des métiers très particuliers, comme même s'il n'y a plus beaucoup de production en France, malheureusement.
Ouais.
Mais en tout cas, il y a un savoir-faire français historique. Ouais. Voilà. Et c'est vrai, et dans l'habillement, en tout cas sur la partie qui est la tienne, et évidemment aussi particulièrement sur la cosmétique. Et donc, il y a cette confrontation des deux mondes, parce que les jeunes entrepreneurs, comme tu es, ou comme nous, on est dans l'esprit. On n'est peut-être pas si jeunes que ça dans notre état civil, mais on est jeunes dans l'esprit. Mais non, mais et nous, on est perpétuellement traversés par des idées qui viennent du web, qui viennent du monde d'aujourd'hui. Donc, on veut être lean, on veut être réactif, on veut être test and learn, on veut lancer tout de suite, etc. Mais après, tu parles, tu veux faire ça de manière mature, de manière sérieuse, et tu veux bénéficier de toute l'historicité que tu as en France, de tout le savoir-faire que tu as en France. Et tu te dis, je vais aller m'adresser, je vais toquer à la bonne porte. Ben là, tu fais face à quelqu'un qui est dans un autre monde que toi, dans une autre temporalité que la tienne. Alors, Marjorie faisait exception chez Batteur, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Mais que Marjorie fasse exception chez Batteur, ben ça dit bien les choses, c'est une exception. C'est pas
la règle.
C'est pas la règle absolue, non. Vraiment pas. Vraiment pas. Mais aussi parce que, et c'est un vrai sujet, tu as commencé tout à l'heure, tu as introduit le sujet auprès de Marjorie en lui demandant. Avec tous ces jeunes entrepreneurs que tu as vus arriver devant toi, est-ce qu'il y a des écueils que tu as vus et est-ce que tu as des conseils à prodiguer? Et en fait, un des écueils principaux, quand on revient là sur ce sujet-là, c'est justement celui-là, c'est celui de ne pas vouloir comprendre certaines des spécificités de l'industrie que tu adresses. C'est-à-dire qu'en fait, faire de la cosmétique, on peut vouloir être autant lean qu'on le veut, on peut vouloir autant bousculer les lignes, sans mauvais jeu de mots, qu'on le souhaite, et on veut vouloir aider à révolutionner le métier. Il n'empêche que faire certains tests qui sont obligatoires et dont on peut tous se réjouir qu'ils sont obligatoires sur les produits, ça prendra toujours un minimum de 3 mois. C'est une question, Marjorie pourra l'expliquer beaucoup mieux que moi, mais c'est une question de biologie, c'est une question de mathématiques, c'est une question de science. On ne peut pas changer ça. Voilà, pareil dans le prototypage d'un sous-vêtement. Le prototypage, ça prend un certain temps. Et on peut bousculer ça dans certaines mesures, mais pas complètement le révolutionner. Alors, c'est l'alliance des deux mondes. Donc, il faut réussir à surfer, à être bon. Et c'est ça, le vrai sujet, je pense. Un des vrais facteurs différenciants.
Et anticiper aussi.
Parce un vrai facteur de succès pour ces jeunes entrepreneurs dans ces métiers-là, c'est justement de réussir à faire le lien entre les deux. C'est pas facile. C'est un grand écart. Et c'est une vraie violence parfois qu'il faut se faire. Mais ça fait probablement la différence. C'est-à-dire que se laisser endormir en mode, ton produit, tu l'auras dans un an et demi, évidemment que c'est pas acceptable. Et que nous, on l'a jamais fait, par exemple. On n'a jamais accepté le moindre délai qu'on nous opposait. Mais de l'autre côté, vouloir le nier et se mettre dans des situations délicates, parce que, je sais, ça n'a pas été ton cas, mais parce que tu fais des promesses que tu ne peux pas tenir ou des choses comme ça.
Moi, je l'ai un peu vécu comme ça aussi, parce que mine de rien, je voulais lancer en novembre 2019, j'ai lancé en novembre 2020. Et c'est vrai que on se rendait compte qu'on n'allait pas pouvoir tenir les délais qu'on s'était fixés, plus je me disais, c'est moi qui faisais des concessions en me disant, je préfère pas sacrifier la qualité, je préfère que ça sorte plus tard.
C'est une évidence.
Mais voilà, pour moi, c'était un peu ce qui m'accrochait. Je les bousculais et quand même, ils sont allés plus vite, etc. Mais un moment, je pense que ça fait la qualité parce que.
C'est partie des gros sujets, en fait, quand on entreprend dans le produit physique avec ses spécificités, avec ses normes, avec ses règlements. C'est tout ce sujet de compromis et de concession.
Ouais. Quand on a lancé le make-up, je peux dire que ça a été ça. Quoi. Ça a été compliqué de lancer le make-up parce que. On ne voulait pas lancer du make-up bio pour lancer du make-up bio parce qu'il y en avait déjà plein sur le marché, tu vois. Il fallait absolument qu'on lance du make-up ou à l'aveugle, tu ne vois pas la différence avec du conventionnel.
Ouais.
Ça a été horrible, quoi. Enfin, ça a été horrible, ça a été génial parce que finalement, nos sous-traitants, nos labos, on nous ont suivis. Mais le challenge de folie qu'on a relevé, parce que quand tu arrives avec des benchmarks un peu conventionnels, je veux la même chose en bio. Mais ce n'est pas possible, Marjorie. En plus, tu vois, nous, on fabriquait en Italie encore à ce moment-là. Et c'est pas possible avec leur accent et tout, tu vois. Ah, mais si, ça va l'être. Et tu galères, tu galères, tu galères, tu fais 100 essais. Et... enfin, pas 100, mais on en a fait, allez, je passe 50, tu vois.
Ouais.
Et c'est vrai qu'ils y arrivent à la fin, ouais. Et quand ils y arrivent, mais c'est...
Ouais, c'est beau.
C'est beau,
c'est très beau. Ouais, ouais, ouais. Non, mais en fait, c'est vrai que c'est vraiment savoir... Enfin, je sais pas si vous étiez donné des délais pour sortir cette gamme de make-up, mais je pense que c'est limite quelque chose comme ça où tu... Limite, je trouve que ça bien que vous aviez une autre gamme en parallèle, parce que comme ça, vous n'attendiez pas que ça.
On s'était donné des délais, mais avec un peu de maturité. C'est-à-dire qu'on s'était donné des délais, un an et cinq mois.
Quand même.
Supposément intenables pour les industriels, mais en réalité, au plus profond de nous, avec toute l'expérience de Marjorie, avec notre expérience aussi de l'entreprise.
Ouais.
Parce que l'entreprise, ça devient une personnalité, après, qui a sa propre expérience. Bon, on savait que c'était faisable. Difficile. À la limite de l'impossible, mais faisable.
Ouais, parce qu'en fait, on a mis la barre aussi super haut. Donc, mais on l'a accepté de le reconnaître.
Voilà, on essaie toujours de flirter avec ça, avec la limite de l'impossible. Alors parfois, la pièce, elle tombe du mauvais côté. Évidemment, ça n'a pas été une route pavée que de succès.
Hein, ouais.
Donc, on a eu aussi des mauvais coups, des déceptions, des moments de grande. Ouais, de...
Mais pas laisser tomber.
Parlez-nous-en parce que vraiment, ça, je trouve que c'est important.
En fait, il y a des moments où tu perds panique. Tu dis non, mais là, on va jamais y arriver.
Est-ce qu'il y a un produit où vous n'avez pas sorti ou vous vous êtes dit à un moment où on le sortira pas?
Bah, le rouge à lèvres, ouais.
Ouais, le rouge à lèvres.
C'est super dur, le rouge à lèvres. Et en fait, pour tout te dire, on a dû faire deux versions. C'est-à-dire qu'en fait, on a dû accepter d'être sur une première version qui, moi, ne me satisfaisait pas intégralement. On avait une super tenue, mais franchement, dans l'étalement, c'était pas cool, quoi.
Ouais.
On galérait un peu, ou alors il fallait super bien s'hydrater les lèvres avant d'avoir une vraie satisfaction quand tu appliques ton produit. Mais on s'est dit, bah, tant pis, on y va comme ça. Mais c'était dur pour nous parce qu'on savait qu'on pouvait créer de la déception et on n'avait pas envie de ça.
Ouais.
Et donc, en fait, en parallèle, tout de suite, parce que tu sais, voilà, on est en grande distrib aussi, on n'était pas que sur l'e-shop. En grande distrib, bah, voilà, c'est pareil, tu annonces un lancement, tu arrives avec une implantation de gamme, tu ne peux pas lancer une gamme de maquillage hors Covid sans rouge à lèvres, c'était pas possible.
Ouais.
Donc pour nous, c'était une évidence qu'il fallait qu'elle existe, cette gamme, mais on savait qu'elle n'était pas à 100%.
Ouais. Voilà.
Et ça, c'est presque la happy end story. Et puis c'est très produit, mais on a vécu des aventures d'entreprise complètement dingues. Tout ce qui est possible, hein. On a tout vécu. Hein. On a vécu le camion perdu, vraiment.
Ah ouais,
ouais,
ah
ouais. T'as
raconté cette journée. Je vous recevais un appel, on vous dit...
Je veux pas raconter des bêtises ni inventer, donc c'est vague dans ma tête, parce qu'on a eu tellement d'histoires, mais je me souviens très bien de cette... globalement l'histoire dans le détail,
j'en ai
pas
des frissons parce que j'imagine si ça m'arrivait, ça me rappelle un peu l'appel quand on nous a dit les enfants sont en Corée, quoi.
Ça
ça aurait pu être bloqué dans le canal de Suez.
C'est clair,
t'as l'impression que c'est un film, t'as l'impression que c'est la vérité si je m'en douze,
mais
vraiment on a eu le camion perdu entre le sud de la France, je sais plus très bien où, et nos entrepôts, et puis retrouvé deux jours après, tu sais pas où était le mec, bon, enfin tu passes à autre chose, quoi. On a eu plus dingue que ça. Le fabricant de nos pompes, c'est le plus gros fabricant européen. C'est la référence absolue. C'est pas non
ça,
plus.
C'était sur la gamme une,
ouais,
baby. Ouais.
C'est pas une immense fierté que de le dire. Hein. Voilà, si t'es responsable, enfin si t'es tout ce qu'on avance, t'as quand même de grandes chances de te fournir en pompe chez lui. D'accord. Donc c'est une référence. C'est des entrepreneurs énormes. C'est une entreprise énorme avec toutes les normes ISO que tu peux imaginer. Et ben, il nous est arrivé, alors qu'on avait des grosses livraisons à assurer auprès des grosses enseignes nationales. Hein. Je te parle des hypermarchés qu'on fréquente tous. Ben, il nous est arrivé d'avoir quelques mois avant la sortie des produits, avant une livraison, l'information que l'usine avait brûlé. Vraiment. Donc on n'avait pas nos pompes. Et on n'aurait pas nos pompes. Et il n'y aurait pas de pompes et c'était fini.
Voilà. Ah ouais.
Donc, tu débarques un matin et voilà.
L'usine a brûlé.
Voilà. Et à partir de là, voilà ta journée.
Alors moi, j'étais pas
donc
encore
ça,
avec...
Ça, c'est ta journée, mais après, ça va devenir ta semaine, ça va devenir ton mois ou pas, selon la manière dont tu vas réussir à résoudre le problème. Bah, évidemment, comme toujours, si j'en parle là, que je suis encore là et qu'on est encore là tous les deux, c'est que ça s'est bien passé, qu'on a trouvé une solution alternative. Parce qu'on s'est fourni ailleurs, parce que le fournisseur en question a su lui aussi être un peu réactif et traiter les différentes priorités.
Ouais.
Et voilà, tu te réveilles un matin et t'as ça.
Ouais.
T'as ça qui arrive. J'allais dire sur tes téléscripteurs, enfin juste dans tes mails, quoi.
Mais après,
ça, c'est
produit,
deux exemples parmi mille, en fait, c'est presque tous les jours.
Mais ça, c'est vrai que c'est ce que disait, je ne sais plus, un entrepreneur avec qui j'ai échangé. Il disait, en fait, être entrepreneur, c'est accepter de résoudre des merdes tous les jours.
Ah, mais c'est ça.
C'est ça.
Mais c'est là. Mais notre métier, il est là. Ouais, mais en même temps, c'est ça qui est kiffant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tout roule, bah, franchement, tu t'ennuies.
C'est sûr. Mais moi, c'est vrai que j'apprends à accepter ça parce que quand tu commences pas entrepreneur, j'ai commencé en faisant de la création de contenu, c'est vrai que tu ne gères pas des merdes au quotidien. Et il y a un truc très angoissant, je trouve, quand même, dans la gestion de merde. Mmh. Et je pense que c'est là aussi, il faut savoir s'entourer de personnes qui sont... Il y a des profils qui aiment vraiment ça et qui trouvent ça hyper challengeant. Moi, je peux pas dire pour l'instant que j'aime ça. C'est d'accord, tu grandis, t'apprends, donc j'essaie de me concentrer sur cet aspect-là. Mais sur le moment, je trouve que c'est quand même vachement dur de se prendre plein de claques. Et justement, comment est-ce que vous faites? Il n'y a pas des moments où vous dites c'est quand même chiant comme quotidien de se prendre que des merdes? Est-ce que parfois vous n'êtes pas dit, enfin, la vie, c'est pas non plus que, alors, que non, de non, se prendre des grosses
tartes. Aussi, en grandissant,
ouais.
Tu relativises beaucoup mieux. Et puis surtout, alors je vais pas nous porter la poisse à tous. Hein,
on a des bois de mandou là, c'est bon.
Une belle table en bois. Mais on va dire que l'occurrence faiblit un peu parce que l'expérience t'aide. Donc, ouais. Et puis il y a autre chose, tu crées des relations vachement fortes avec les gens qui t'ont aidé, vraiment. Ouais. Il y a beaucoup plus de gens qu'on te croit qui sont bienveillants et qui ont envie de t'aider.
Ouais.
D'autres pas, ceux-là tu les oublies, tu as tendance à moins aller vers eux. Mais parfois tu peux choisir entre deux fournisseurs pour une question de centimes l'un plutôt que l'autre et puis tu te rends compte que tu t'es trompé, quoi, qu'il fallait plutôt prendre celui qui allait t'aider. Et nous, il y a vraiment des gens, mais je peux le dire là aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui nous ont accompagnés, mais plus que de manière bienveillante, quoi, presque de manière amicale. C'est des gens qu'on ne connaissait pas avant, mais qui ont cru en nous, qui ont cru au projet, qui ont cru en nos histoires, qui ont cru en nos problèmes. Parce que tu sais, quand tu reviens, c'est une chaîne en fait. Comme parfois quand on travaille dans l'information, il y a une chaîne d'information, mais là, c'est une chaîne de valeur. Parce que pour arriver à faire ce qu'il y a sur la table, là, c'est-à-dire l'encre à lèvres, il y a un pack, c'est un assemblage de différents produits, de différents métiers. Donc, pour assembler tout ça et pour être in time dans l'assemblage de tout ça, il faut réussir à coordonner tout ce petit monde. Donc, dans ces chaînes-là, il y a des gens qui sont substituables, d'autres qui ne le sont pas. Mais en tout état de cause, il y en a certains vraiment qui t'aident, mais qui t'aident profondément. Et voilà, ça crée des relations qui sont solides, qui sont pérennes.
Super pérennes.
Et aujourd'hui, vraiment, certaines de nos innovations, certains de nos projets, certains de nos produits naissent grâce à ça. Finalement, tu vois, pour dire, souvent on dit qu'on dépasse les problèmes et que ça devient quelque chose de plus profond, mais là, c'est une illustration de ça. C'est-à-dire que d'un problème qui peut paraître insurmontable, il y en a vraiment certains qu'on a pensé, mais vraiment au fond de nous, insurmontable. C'est-à-dire que penser, voilà, c'est la fin de l'entreprise, moi, ça m'est arrivé plein de fois de le penser. Mais jamais d'être abattu.
Ouais.
Toujours de ne pas dormir pour trouver la solution, pour essayer de trouver la solution.
Oui, mais alors, il faut signer que Stéphane a quand même une capacité à tout relativiser. C'est-à-dire que tu lui présentes toutes les merdes, il va te dire « Non, mais c'est pas grave, un jour, on va gérer.
Bah » Non, ouais, mais c'est de l'espace, tu t'apprends ça. C'est qu'en fait, t'as géré des choses folles, donc tu te dis «
Et voilà, il ne peut plus dormir la nuit, rien de le stress, enfin voilà.
Ouais. »
C'est pas ce que j'avais dit il y a 3 minutes, je disais que je dormais pas. C'était bon,
non,
c'est vrai
si.
En vrai, je dors, quoi qu'il arrive.
Ouais.
Mais bon, ça, c'est une question de personnalité, mais peu importe la personnalité, ce que je veux dire, c'est qu'on est tous confrontés à ça, et c'est pas des conneries que de dire que les problèmes que tu surmontes et tu finis toujours par les surmonter, voilà, ça te rend plus fort. Ça, c'est bateau à dire, mais
c'est très
je veux l'illustrer dans le concret. Ça te rend plus fort. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un chemin que tu reprendras plus.
Ouais.
Et puis ensuite, parce que c'est l'essentiel de tout, en fait. Tu as créé des relations fortes, solides, pérennes, de confiance, réciproques et mutuelles, avec des gens qui t'aident, sans lesquels tu ne peux pas avancer, sur lesquels tu t'appuies parfois, auxquels tu te réfères d'autres fois. Et puis c'est mutuel, parce que l'air de rien, on a quand même pas mal bousculé avec nos marques et nos projets. On a pas mal bousculé l'univers de la cosmétique bio, en tout cas en grande distrie, là où on est principalement. Et donc, on a, nous aussi, de notre tout petit niveau, derrière notre toute petite lucarne, on a aussi aidé les gens à avancer. Donc, c'est l'alliance de l'éléphant et de la souris qu'on est parfois avec nos industriels, ça mène loin, vraiment.
Ouais,
Vas-y. Non, mais c'est vrai, t'as raison, pour reprendre ton point... Les laboratoires qu'on a vraiment challengé pour arriver à ce qu'on voulait, maintenant ils connaissent la recette.
Ouais.
Tu vois, donc c'est aussi
donnant-donnant.
C'est donnant-donnant. C'est-à-dire que voilà, c'était du chemin qu'on a parcouru ensemble et puis eux ils se servent aussi de cette expérience qui les a fait grandir, mûrir aussi et puis se développer.
Totalement. Mais en fait, je me rends compte, c'est vrai, même dans mon expérience en avançant, qu'on ne se rend pas assez compte d'une évidence qui est qu'en fait, il y a toujours un humain derrière. C'est-à-dire que je trouve qu'on essaye beaucoup de trouver les stratégies pour comment voilà oui comment réussir à avoir le meilleur machin. Et en fait vraiment je trouve que moi il y a un truc qui a changé dans mon état d'esprit où en fait maintenant je réalise qu'à chaque fois il y a une personne derrière et qu'en fait si tu maîtrises un petit peu les relations humaines tu maîtrises tout en fait dans n'importe quel domaine.
Alors là tu prêches une convaincue, des convaincus je pense.
Mais à la limite près que parfois t'as des déceptions et ben cela carrément les écarter,
carrément faut, mais du coup
en tout cas tu sais
ouais non il mais, faut être, il mais, faut être lucide
mais nous vraiment c'est plutôt une collection de bonnes nouvelles qu'on a, enfin de bonnes nouvelles sur l'humain, sur la matière humaine. C'est-à-dire que vraiment, j'aurais presque envie de les citer, c'est peut-être pas le lieu, mais il y a vraiment des gens qui nous ont accompagnés, qui nous ont dit mais on va pas vous laisser tomber, qui nous ont trouvé des solutions. Vraiment, et si on est encore là aujourd'hui, et si on continue de se développer aussi fort et d'être porteur d'autant d'innovation et d'autant de valeur pour nos clients finaux et nos clients intermédiaires, nos resellers, c'est en grande partie grâce à ces gens qui nous ont accompagnés, vraiment.
Et qu'est-ce que vous avez appris justement du coup peut-être sur l'humain ou en tout cas est-ce qu'il y a des enseignements que vous pouvez nous partager où au fur et à mesure de vos années d'expérience vous êtes rendu compte ben voilà en fait ça marche toujours ou alors voilà ce qui prône voilà ce qui ne marche pas
La sincérité tu vois la transparence des échanges c'est essentiel hein, en fait puis qu'on te dise rapidement si c'est bien ou pas bien. Tu vois, enfin, pour moi, c'est.
Le feedback, la communication.
Le feedback, la com et tout. Et puis, l'accompagnement qui doit être précieux, rigoureux et dans la bonne voie et la bienveillance, bien sûr. Moi, je le vois rapidement maintenant aussi avec qui je dois bien m'entourer. Et je sais pas, on a aussi de plus en plus d'intuition, tu vois.
Ouais.
On sait tout de suite si ça va le faire ou pas.
Quand tu l'as vachement bien dit, c'est-à-dire qu'on a affaire à des humains et pas une entreprise parfois ça écrase l'humain vraiment.
Ouais.
Mais derrière ça, au bout de la ligne, si tu te livres un peu, si tu échanges un peu, t'as affaire à un humain qui peut avoir envie de t'aider, qui peut avoir envie d'aller au-delà de ses autorisations, qui a envie de partager le succès aussi avec toi, tu vois.
De toute façon, c'est embarquer les gens un peu, en fait, je me rends compte. C'est arriver à leur partager avec sincérité, en effet, ce que tu veux faire et arriver à les toucher, quoi. Je me rends compte, il y a cette dimension où, en fait, c'est l'humain régi par des émotions. Et du coup, si toi, tu arrives à toucher cette personne, t'as fait la moitié, voire plus, du chemin, quoi.
Bah, ce dont on parle comme entrepreneur, c'est d'avoir ce dont on parle depuis tout à l'heure, d'ailleurs, c'est d'avoir des relations avec des fournisseurs, en fait, clairement. Et alors je pense qu'il en va des relations avec les fournisseurs, qu'on parle au patron ou qu'on parle à des niveaux plus intermédiaires. Il en va de même que pour les relations que tu as avec tes salariés, c'est-à-dire que tu as dans une entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, ce que les gens attendent, c'est pas grand-chose de plus que de l'information et de la considération.
Ouais.
Donc si ton fournisseur, tu veux pas lui expliquer parce que c'est sous NDA, que machin, ou que tu as peur de la concurrence, évidemment qu'il faut faire gaffe, évidemment qu'il faut pas être naïf. Mais si tu lui expliques pas bien les tenants et aboutissants, que tu le fais pas un peu partager ta vie d'entrepreneur et tes propres enjeux, si tu le considères pas non plus et que t'es pas capable de décrocher ton téléphone pour le remercier une fois qu'il est sorti du bourbier ou pour partager avec lui tes succès, c'est peut-être pas la meilleure des méthodes pour tisser des relations solides.
Et comment est-ce que vous gérez justement ça aussi au quotidien avec vos salariés parce que bon j'imagine que vous avez tous les deux appris à manager, c'est pas facile. Vous êtes combien aujourd'hui au sein de Charlotte Bio?
On est une petite dizaine.
Et ça se passe. Enfin voilà, comment vous arrivez peut-être à. Moi, c'est vraiment un truc aussi qui me fait peur à l'avenir, c'est arriver à. Considérer autant chacun, chacune, arriver à nous continuer à avancer tout en. Voilà, c'est presque comme de la parentalité, j'ai l'impression.
Ouais, c'est vrai. On a une équipe merveilleuse.
On a une chouette équipe. Et moi, dans ma vie passée, j'ai aussi pas mal managé, tu vois. C'était pas ma boîte, j'étais pas au rennes du management, j'étais aussi dictée par la hiérarchie. Et ça, c'est aussi un vrai sujet, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu es entrepreneur et que tu commences à embaucher ton premier salarié, à définir toi-même la culture de l'entreprise que tu as envie d'avoir, à dicter des règles, mais aussi tu sais très bien qu'il faut aussi mettre beaucoup de liberté dans tout ça, sinon tu auras finalement pas de créativité. Faut essayer d'assembler tout ça pour que ça se passe bien. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça se passe plutôt bien, tu vois. En plus, on est une marque sympa, on est dans le make-up. Bon, effectivement, elle est exclusivement féminine, excepté Stéphane.
L'équipe?
Ouais.
Ok.
Ouais.
Ça s'est fait comme ça, si tu veux. Ouais, mais en même temps, quand tu parles de maquillage, hein, quand on a une grosse partie de l'équipe qui est quand même sur le digital.
Tant qu'on n'est pas encore au niveau d'embaucher un contrôleur de gestion, ça va être assez compliqué d'imaginer les profils masculins qui viennent.
Il y a des passionnés aussi, mais c'est vrai que.
D'ailleurs, on peut lancer un appel aujourd'hui.
Vous lancez un appel.
avec un immense plaisir, parce que ça apportera toujours quelque chose. La diversité, ça apporte. Il n'y a que du plus à en tirer, ça,
c'est clair.
Non, mais je pense qu'un truc qu'on a réussi avec Marjorie, mais c'est je dis on par adhésion, mais c'est surtout Marjorie, parce que le quotidien, en fait, il faut qu'on précise ça et qu'on précise ça à tous nos auditeurs, c'est qu'on est une boîte un peu particulière, mais je pense que c'est aussi une des richesses de l'entreprise. C'est que moi, j'ai d'autres activités, donc moi, je suis basé à Paris. Et dans le quotidien, dans nos tâches quotidiennes, mis à part les trucs très techniques, financiers, parce que moi, j'ai un parcours de directeur financier, tu vois, donc qui est un peu très différent de la cosmétique. Dans des univers assez sympas, mais bon, voilà.
Essaye de justifier.
Ouais, faut quand même que je le dise. Faut quand même que je trempe le truc un peu relou dans un bain de sirop, quoi. Donc, qu'est-ce que je disais ?
Avec les majorités.
Je vais y revenir. Donc, dans le partage des tâches au quotidien, voilà, je vais prendre des trucs qui sont un peu sur mon territoire de compétences, quoi. Je vais prendre des sujets un peu financiers, etc. Évidemment, tous les sujets stratégiques, on va les partager, Marjorie et moi. Ouais. Vraiment, le quotidien de l'entreprise, c'est Marjorie qui l'anime. Marjorie est quotidiennement dans nos locaux de Caen, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je leur rends visite, une fois toutes les semaines, toutes les deux semaines, quoi, voilà. Et en revanche, on échange perpétuellement, Marjorie et moi, quotidiennement, tout le temps, sur des détails, sur nos partages des tâches un peu qui s'est fait naturellement entre nous. On échange, on s'informe l'un et l'autre. Et puis, on partage vraiment, pour le coup, toutes les grandes décisions stratégiques ou les petites décisions stratégiques importantes. Alors donc, pour revenir au point, donc ce que je trouve qu'on a bien réussi, Marjorie et moi, et qu'on doit particulièrement Marjorie, pour la raison que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que c'est son quotidien à elle, c'est d'avoir une entreprise qui nous ressemble. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et pour moi, c'est une immense réussite. Je ne sais pas où ça nous mènera, je ne sais pas où est-ce qu'on ira, je ne sais pas ce qu'on en tirera et ce que sera l'entreprise dans 2 ans, dans 3 ans. Mais en tout cas, maintenant, elle ressemble précisément, vraiment. Mais je veux pas que tu vois un truc de prétentieux là-dedans, parce que moi je me définis pas comme quelqu'un de visionnaire, pas du tout. Mais elle ressemble vraiment précisément à ce que j'avais en tête il y a 1 an et demi, quand on a racheté avec Marjorie et un partenaire, quand on a racheté les parts de mon ancien associé que j'ai évoqué au tout début. On y reviendra peut-être plus, parce que là c'est peut-être un peu flou et vague. Mais j'avais une idée assez claire de ce à quoi je voulais que ça ressemble. Et vraiment, grâce à Marjorie et grâce à son...
Grâce à tout le monde, en fait, parce que...
On y est vraiment parvenu.
Vous avez parvenu de la vision à l'exécution, quoi.
Et grâce aussi à Marie-Lou, que tu connais, notre directrice marketing digitale, qui a pris en main tout le digital. Parce que moi, clairement, développement produit, management, super expérience en cosméto. Mais le digital, c'était pas vraiment...
Ton domaine d'expertise.
Mon expertise.
Ça va au-delà de... Pardon.
Mais c'est la réalité, c'est qu'aujourd'hui elle fait partie de l'équipe à part entière et c'est un vrai pivot.
Et ça va au-delà de ça, quand tu dis qu'on est allé de la vision à l'exécution, ça fait très business case, ça fait très business case à HEC, c'est top de dire ça, hein. Mais tu vois, j'oserais même pas le dire.
Vous avez donné vie à votre vision, quoi, quand même.
Ouais, c'est, en fait, ça ressemble. Tu sais, c'est comme quand, je sais pas, tu peux te retourner parfois sur ta vie et tu te dis, ben c'est bien, la famille que j'ai, elle ressemble à la plus belle des familles que j'avais jamais imaginées, quoi, tu vois.
Ouais.
Bon, j'ai pas envie de parler de ça, mais pour l'entreprise, bref, notre toute petite boîte aujourd'hui, elle ressemble vraiment à la meilleure vision, au meilleur rêve que je formulais pour cette entreprise, vraiment. Voilà.
Ouais. C'est marrant parce que tu parles de vision. Moi, j'avais du mal aussi à me projeter. En fait, moi, j'avais du mal à en avoir une. Première fois qu'on a pris nos bureaux à Caen, on s'est dit, ouais, c'est les plus beaux bureaux de Caen. On est trop contents. C'est vrai, en plus, on a des choix de bureaux. Tu viendras à l'occasion.
Ouais, mais c'est vrai. Mais c'est vrai qu'au début, Marjorie me présente, je me disais, trop petit.
Ouais. Et alors que tu vois, on était tous les deux, on se relançait, quoi. On relançait la boîte. Et Stéphane, il me fait, non, c'est trop petit, ça. Je dis, oui, mais attends, là, on n'a pas encore embauché, on démarre.
Ouais. Oui, mais dans un an, on n'est pas que tous les deux, Marjorie. Dans un an, on est...
Et du coup, il voyait tout de suite très grand, plus grand. Plus grand, pas très grand, mais plus grand. Et moi, j'avais encore beaucoup de mal. Pour moi, c'était assez nouveau, si tu veux, l'entrepreneuriat. J'avais juste monté une boîte de consulting avant. C'était tout. Non, tu vois, tu l'avais, cette vision, c'est drôle, c'est bon.
Bah ça, c'est quand même la force, je trouve, des entrepreneurs, c'est en effet d'y croire et d'avoir déjà la vision, parce que c'est ça qui permet de la dérouler.
On a de la
chance,
Marjorie et moi, parce que du fait de l'organisation un peu atypique, un peu hybride, dont je parlais tout à l'heure, ça crée forcément, alternativement, c'est pas, je vais pas faire celui qui a du recul, qui a la vision, et puis Marjorie qui agit, c'est pas vrai, c'est pas la réalité. C'est alternativement, on va être l'un dans l'action, alors c'est peut-être en plus souvent Marjorie que moi, évidemment, dans l'action, mais alternativement, on va être l'un dans l'action, l'autre dans la réflexion,
ouais.
ou le
l'idéation,
recul, voilà.
Ouais.
Et puis d'ailleurs, il y a autre chose qu'il faut qu'on dise, c'est que ce côté managérial, on le partage vraiment. Alors, évidemment, il y a du management, il y a de la hiérarchie, il y a des choses normales qui font vivre une entreprise, qui font que chacun se reconnaît et chacun est à l'aise. C'est hyper important aussi pour les salariés d'avoir un cap, d'avoir une vision, d'avoir des règles. Parce qu'en l'absence de tout ça, ben, ça ne fonctionne pas, la vie ne fonctionne pas, la vie en communauté ne fonctionne pas. Mais on partage aussi notre vision. Moi, on n'est jamais avare de ça. Avec Marjorie, on partage tout le temps notre vision avec Marie-Lou, l'équipe de Marie-Lou, toutes les autres filles qui composent l'équipe.
Ouais.
On échange. Et puis, il y a un truc tout con, qui est vrai que je dis tout le temps à Marjorie, mais c'est vrai, moi, je le pense profondément, c'est que les idées, c'est gratuit. Donc, moi, toutes mes idées, je considère qu'elles n'ont pas de valeur. En revanche, les idées des autres, étonnamment, je considère qu'elles ont une valeur infinie. Mais vraiment, c'est vraiment sincère. Donc, moi, tous les deux, on est vraiment tout le temps à l'écoute des idées de tout le monde. Et quand on fait une réunion marketing au bureau, moi, je fais tout le temps passer le message à Marjorie. Je dis, j'espère que tout le monde va venir avec des idées. Moi, j'attribue une valeur infinie. Enfin, je me dis, putain, une idée, mais en plus, elle n'est pas de nous, quoi. Donc, c'est génial. Que rêver de mieux, quoi.
Et puis, on est tout autour de la table, tu vois. Même la stagiaire, une stagiaire de 2-3 mois qui est là, mais elle a le droit à la parole en
totalement.
Même titre que nous.
Ouais.
Et c'est probablement elle, d'ailleurs, qui va nous sortir les meilleures idées parce qu'elle est peut-être plus dans la cible. Et puis, voilà.
Ouais.
Parce qu'on est aussi...
Il faut donner de la valeur.
Franchement, on est dans du maquillage bio. Ça parle à beaucoup de gens.
Ouais.
Donc, les idées, mais on en a... pas de mine par jour, mais on en a beaucoup par jour. Après, il faut les transformer, mais franchement...
Voilà, après, ça n'empêche pas que nous, on est aussi là pour tracer une direction claire, pour donner un cap précis, qui peut évoluer. On est une start-up, on va être un peu lean, etc. Donc forcément, les choses peuvent évoluer, mais...
Mais maintenant, c'est quand même beaucoup plus précis, clair, et puis c'est vrai qu'on a une vision un peu plus long terme.
C'est important, ça, je pense que c'est vraiment important. Ouais. Quand on embauche, quand on commence à constituer une équipe, être un peu entouré, pour rapport soit des embauches, c'est pas ça que je me suis repris, ça peut être des embauches, ça peut être des stages pour commencer. Mais je pense que le partage, etc., chacun fait avec sa personnalité, chacun positionne le curseur de la démocratie managériale là où il le souhaite, ou de l'écoute managériale. Ça, en revanche, je pense qu'on peut le pousser au maximum.
Ouais.
Après, la démocratie managériale, c'est encore un autre sujet. Mais chacun positionne ça un peu comme il le souhaite. Mais il y a un truc qui est important quand même, qu'on retrouve à peu près partout, c'est que quand on est entrepreneur ou quand on est patron, on doit quand même donner une vision aux gens, on doit quand même leur donner un cap, on doit quand même au moins leur montrer qu'il y a un pilote à bord, ou il y a des pilotes à bord, et qu'on sait où est-ce qu'on va, quoi. C'est pas grave si on change un peu de route, c'est pas grave si la route est un peu escarpée, c'est pas grave si on s'arrête un peu pour remettre de l'essence. Tout ça, c'est la vie normale.
Ouais.
Mais en revanche, il faut quand même montrer qu'à un moment, on sait où on va et il faut donner du souffle. Quoi, parce que sinon...
Et concrètement, comment vous faites ça au quotidien? Parce que ça, c'est très théorique, tu vois.
Concrètement, c'est essayer de voir toujours un peu le... Enfin, j'aime
c'est
pas dire
de l'énergie.
Ça.
Marjorie
dit souvent ça, de voir le coup d'après. Moi, je trouve ça toujours un peu prétentieux. Alors, moi, j'aime pas nous l'auto-attribuer, mais... C'est un peu ça, c'est-à-dire que là, on est en train de faire ça. Qu'est-ce qu'on doit faire après?
Enfin, moi, je dis tout le temps. Ouais, moi, je dis souvent ça, mais c'est vrai que toi, c'est souvent un coup d'après aussi, parce qu'il y a aussi, moi, on est dans l'action du moment, on doit tout mettre en place et tout, et c'est vrai que Stéphane, de sa vision un peu plus parisienne, va me dire ok, donc dès qu'on aura fait ça là, ok, on ira faire ça, ok, voilà, on va déjà essayer de se concentrer sur ça, première étape, et puis on va vite arriver, mais dès qu'on en parle, moi, c'est dans le coin de ma tête, et je sais qu'on l'actionne déjà, et j'en parle déjà aux filles au bureau.
D'accord.
En fait, on est
donc c'est les inclure dans les idées de la suite, quoi.
C'est tout le temps, et c'est ça, c'est ce qui est précieux dans une petite structure comme la nôtre aussi.
Tout ça, c'est quand même beaucoup beaucoup de matière humaine. Essentiellement, enfin, il ne se passe rien sans équipe, il ne se passe rien sans personne. Hein, donc, en fait, pour être concret, le coup d'après auquel chacun peut penser perpétuellement, c'est quelle est ma prochaine embauche, au sens large, encore une fois. On n'a pas tous les moyens de tout le temps embaucher des CDI, donc ça peut être d'autres modalités. Mais en tout cas, quelle est la prochaine personne qui va nous rejoindre? Voilà, tu n'es pas obligé de dire je vais avoir 3 stagiaires demain, tu ne sais même pas ce que tu vas leur donner à faire. Mais vous en prendre un ou une pour commencer. Et puis te dire, je sais ce qu'elle va faire ou ce qu'il va faire. Ça va évoluer parce que je vais me tromper. Mais évidemment que je vais me tromper comme toujours. Mais ça va se sédimenter et dans un mois ou deux mois, je saurai exactement ce qu'elle fait. Elle aura pris une place. Cette place va devenir un besoin, pas un besoin, une fonction de l'entreprise. Et cette fonction de l'entreprise va être pérenne au-delà de la personne. Ça, c'est essentiel. Au-delà de la personne, toujours. Donc si la personne change, évolue, ça marche pour nous tous, moi compris, bien sûr. La fonction restera. Ça, c'est important. Comme ça, t'as pérennisé quelque chose. Et puis. Ce qui est important du coup, c'est d'avoir l'idée d'après. Quelle est la prochaine fonction? Nous, Marjorie et moi, on a nos trois prochaines embauches qui sont clairement dans nos têtes.
Ouais.
Parce que ça va advenir demain, après-demain ou jamais. Ben, nos autres réussites
le diront
et le rendront possible. Mais en tout cas, on a nos trois prochaines embauches qui sont déjà clairement établies dans nos têtes. Et ça, c'est des fonctions de l'entreprise qui vont arriver. Parce qu'encore une fois, quand on embauchera, on va prendre un exemple simple que tout le monde comprend, on embauchera un comptable, si on embauche un ou une comptable, il est certain que la fonction, une fois qu'elle sera internalisée dans l'entreprise, aujourd'hui c'est chez notre expert comptable, comme la plupart des startups, ça sera une fonction internalisée qui va régir quelque chose dans la boîte et qui existera de manière pérenne et solide. Voilà.
Ouais, je comprends totalement. Bah, du coup, ça me donne envie de savoir, parce que tu dis on fait rien sans équipe. C'est vrai, mais quand on commence seul ou à deux dans votre cas, si, on est obligé de délivrer même si on n'est que deux. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique de... Voilà, c'était quoi Charlotte Bio quand vous étiez tous les deux et dès que quelqu'un vous a rejoint dans l'équipe? Et qu'est-ce que ça a changé, quoi?
Ça a été très vite.
Ouais.
Parce qu'en fait, si tu veux quelques dates, on a repris la boîte en décembre 2019.
Ouais.
Donc, on a repris la boîte avec des valises de classeurs.
Attends, je fais juste une incise, mais rapide.
Ouais.
Que tout le monde, que chacun comprenne. En fait, la boîte existe de manière opérationnelle depuis 2016. Donc, 16, 17, 18, on était avec Benjamin, pour le citer, mon ancien associé, avec lequel on a développé la gamme Baby et la gamme Family, parce qu'on a été un peu vaporeux tout à l'heure. Je n'ai pas été très clair probablement dans l'introduction. Donc, les deux premières gammes de l'entreprise, Baby et Family, qui étaient... Donc, on était Benjamin et moi co-associés à 50-50 de cette entreprise, CBB, avec ses deux premières gammes que je viens de citer. On était adossés à l'entreprise de Benjamin, qui exploite sa marque à lui de son côté, qui s'appelle Marilou, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, Charlotte était un peu comme un enfant qui aurait le droit d'aller manger chez ses grands-parents ou dans la famille de temps en temps. Ou, je ne veux pas polémiquer, ou... En tout cas, d'aller manger dans la famille, mais pas forcément chez elle. Donc, pour plein de raisons, Benjamin et moi avons décidé de nous séparer. Marjorie et moi, je pense qu'on va reparler de ça, c'est intéressant. On s'est rencontrés avant. Moi, j'ai su bien un an avant la séparation de Benjamin que j'allais m'associer avec Marjorie, je le savais. C'était, je ne dis pas que tout était écrit dans ce sens, mais bon, pour moi, c'était assez clair. Vraiment, c'est pas...
C'était sa vision.
Je réécris pas l'histoire, mais c'était extrêmement clair.
Mais on sent les choses.
C'est ça.
Il n'y a pas vraiment de débat pour moi. Et donc... Voilà, pardon pour cette petite rétro-pédalage. Et donc voilà, quand on s'est séparé avec Benjamin, Marjorie et moi, et un partenaire financier, avons racheté les parts de Benjamin pour qu'on se retrouve ensemble à 100%. Et donc on a divorcé de sa petite boîte à laquelle on était adossé. Donc on avait chez lui le bénéfice de parfois certains de ses salariés, voilà, insuffisamment à mes yeux, je pense que ça s'est entendu, dans ce que j'explicite depuis tout à l'heure. Et donc on est reparti avec Marjorie en se disant, c'est aussi pour ça que j'avais les idées assez claires. Il faut refonder une entreprise, mais en tout cas là en l'état, ce qu'on a c'est quoi? On est actionnaire, on est co-actionnaire de cette entreprise. On a les marques, les savoir-faire, etc. Et puis on a ce projet make-up qui est extraordinaire, auquel on croit profondément, sur lequel on a livré une copie qui est géniale. Maintenant, il n'y a plus qu'à.
Ouais.
Je te repasse la parole, Marjorie.
Le make-up, on l'a lancé avant.
Oui, juste avant. C'est pour ça qu'on l'avait déjà dans nos bagages.
On venait de le lancer. On l'a lancé, si tu veux, en juillet.
Ouais.
Et
juillet 2020 ou 2019 ?
2019.
Ouais,
et on a donc racheté cette boîte en décembre 2019.
Ouais.
Et,
en juillet 2019, qui était dans cette... qui bossait sur la gamme make-up ?
Marjorie.
Moi.
Toute seule.
En indépendante.
D'accord. On avait connu Marjorie sur un salon. À Hong Kong, c'est Marjorie qui était venue nous rencontrer justement dans le cadre de l'activité dont elle parlait tout à l'heure.
Dans le cadre de la sous-traitance, si tu veux, moi j'étais à Hong Kong en prospection de clients, parce qu'il fallait chercher des clients, du coup, des jeunes marques. Et là, je rencontre effectivement Stéphane et Benjamin, on papote. Tu sais, entre français, quand t'es dans un salon international, français, tu.
Des liens se créent.
Très vite, ouais. Et là, on papote, et c'est vrai que ça a fité tout de suite, quoi. Mmh. C'était sympa, On s'est revus après à Paris, du coup, on a fabriqué le liniment pour Charlotte Baby à l'époque. Et puis moi, donc ça, je ne sais plus c'était quand, c'était en 2017. Et puis en 2018, moi, je me suis mise à mon compte en tant que consultante. Ça, c'était en janvier 2018. Et avec Stéphane, on se rappelle, fin janvier. Puis Stéphane commence à me parler de deux, trois projets.
Puis dans la conversation, il n'avait pas envie de lâcher. Il me dit, de toute façon, il va falloir qu'on bosse ensemble. Je ne sais pas comment, là, mais il va falloir qu'on bosse ensemble. Et moi, je venais de me lancer consultante et tout. J'avais plein d'idées en tête. Mais bon, toi, tu te lances et tout. Ton objectif, c'est d'accompagner des clients et du coup, de trouver des clients.
Ouais.
Et du coup, Stéphane me parle de
moi,
ça.
Moi, j'étais certain de la qualité de la rencontre. C'est pour ça qu'en introduction, je disais que c'est une aventure de c'est une histoire
c'est
de rencontre.
Une histoire de rencontre, mais tout le temps. Mais la vie est une histoire de rencontre.
Voilà. Moi, j'étais absolument certain de la rencontre. Et j'étais absolument certain aussi que notre rencontre professionnelle, puisqu'on était copains avec Benjamin, allait s'arrêter. Il le savait, on le savait, on se le disait pas forcément, parce qu'on a essayé ce qu'on a pu. Mais on voyait bien qu'on allait arrêter, parce qu'on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde. Et puis, on avait des vrais désaccords profonds sur justement ce que chacun devait apporter, etc. Donc l'histoire était assez écrite avec Benjamin de notre séparation. Donc moi j'avais aussi, assez tactiquement, quoi, ou assez stratégiquement, il fallait que je commence à pouvoir...
À trouver quelqu'un d'autre pour t'épauler, pour t'accompagner.
Et à pouvoir savoir...
Ouais, puis il y avait cette opportunité.
Comment reconstruire, quoi.
Ouais.
Voilà, et là est arrivée l'opportunité de la make-up, de la gamme make-up, enfin la vision de la gamme make-up, et ce vrai virage qu'on ressentait immédiatement stratégique. Et à la faveur de ce virage-là qu'on était incapable d'emprunter dans le setup qui était celui de l'époque avec Benjamin, j'ai dit, ah ben c'est pas compliqué, on va le faire, mais on va le faire avec Marjorie et il n'y a pas le choix en fait. Donc voilà, donc j'ai imposé comme ça que Marjorie devienne consultante presque permanente.
Ouais,
du coup j'étais quasi à 100%.
Ce qui fait qu'en fait la réalité de notre collaboration et de notre modus operandi, et pas vivandi parce que ce serait presque péjoratif, mais notre modus operandi à Marjorie et moi, Il est advenu en fait à ce moment-là, c'est-à-dire que dès un an avant le rachat de l'entreprise, je suis un peu mauvais en date, mais c'est à peu près ça.
Ouais.
On a co-créé ensemble la gamme make-up.
Ouais, parce qu'on a commencé.
Et voilà, donc on a recréé en fait une espèce de cellule à l'intérieur de notre entreprise adossée. Tout ça, il y a beaucoup de tout ça est très hybride. J'espère que tu
J'espère que les gens qui nous écoutent, tu aussi, mais je pense, parce que
en résumé, c'est assez simple. Moi, pendant un an et demi, je les ai accompagnés pour créer cette gamme de make-up bio.
Et donc, t'étais seule, tu chapeautais le truc.
Et j'étais seule dans ma maison, tu vois. Donc, j'ai la chance, je vis en bord de mer et tout.
Et on était en contact permanent.
Mais on était en contact au quotidien, tout le temps, chapeautais tout, avec tous les sous-traitants, et voilà. Et on était en contact quotidien. Et juillet 2019, on a lancé. Et décembre 2019, les choses ont un peu changé. Et là, c'est là où la nouvelle vie de notre société s'est créée, quoi, tu vois. Une deuxième naissance.
Donc, on a racheté le portefeuille de marque,
en clair. En décembre 2019,
Les parts de Benjamin qui comportaient sa part du portefeuille de marque.
Ouais.
Donc, et puis, pour parler plus simplement, peut-être que juridiquement, principalement, ce qu'on a racheté ensemble, c'est le projet make-up, quoi. Parce qu'il était assez clair dans mon esprit. Que ça allait être vraiment plus que le relais de croissance, parce que c'est une expression un peu toute faite, que ça allait être vraiment l'avenir de l'entreprise.
Aujourd'hui, c'est le cas.
À partir de quel moment, du coup, vous vous êtes dit, il y a une troisième personne qui entre dans l'équipe?
Alors, rapidement, c'est-à-dire que j'étais toute seule.
Ouais.
Stéphane était là, mais opérationnellement, il me fallait de l'aide.
En fait,
j'avais déjà pendant un an et demi porté quand même assez seule, et puis avec aussi une fin de vie de société aussi, de la première partie, qu'il fallait vivre avec ses bons côtés et ses moins bons côtés. Et donc moi, rapidement, là, j'ai dit non, mais là, il nous faut quelqu'un. Et du coup, je ne peux plus exercer à la maison puisqu'on va embaucher une première personne. Donc là, il nous faut des bureaux.
Ouais.
Et puis, rapidement, on a embauché une première personne, tu vois, une première personne qui m'aidait dans tout le suivi quotidien, commande, gestion du stock. Il fallait aussi rapidement trouver un logisticien.
Ouais.
Parce que je t'épargne les détails, mais gérer plus d'une centaine de références de maquillage, c'est pas beaucoup de volume de palette en soi, parce que le maquillage est tout petit. En revanche, c'est de la gestion quotidienne de tableau Excel, de prévision de vente, de besoins, de commandes. Ouais. Et puis quand t'achètes un capot de vernis, quand t'achètes un pinceau de vernis, quand t'achètes ton flacon de vernis, tout ça, tu veux, ça multiplie beaucoup les tâches, les missions de ce genre de poste. Donc il fallait vite, rapidement, qu'on essaie de se faire aider. Et du coup, deux personnes en janvier, et après, on a été confinés.
Ouais.
On a été confinés mi-mars, et le 16 mars. Et le 16 mars, moi, j'avais deux stagiaires qui arrivaient aussi pour m'aider sur la partie digitale. Parce que moi, je commençais la partie digitale, si tu veux. Alors, c'était un peu compliqué. L'épouse de Stéphane nous a super aidés, parce qu'elle aussi, confinée, mais s'y connaissant, du coup, jusqu'à présent, elle n'avait pas été vraiment dans Charlotte. Mais là, elle nous a donné un bon coup de pouce. C'était très sympa. Et puis un jour, je dis à Stéphane, écoute, moi, j'ai la personne qu'il nous faut. Elle s'appelle Marinou. Elle est basée à Caen. J'ai bossé avec elle, puisque j'avais bossé avec elle dans ma vie passée aussi en sous-traitance industrielle. Et en même temps, voilà, Marinou, elle était...
C'est pareil. De la même manière que moi, je savais
c'est des
en Marjorie qu'elle allait bosser avec moi.
Marjorie savait qu'elle...
Et Marinou, si tu veux, on a bossé...
Elle avec moi, elle me l'a toujours dit.
Marinou, pendant... on a bossé un an et demi ensemble. Voilà. Et en fait, quand elle est partie avant moi, du groupe Batteur. Et quand elle est partie, j'ai dit, de toute façon, on bossera ensemble. Et elle me suivait. On déjeunait tous les mois ensemble. Elle me suivait. Alors, ça se passe bien, le maquillage et tout. Tac, tac, tac. Et elle posait ses petits pions. Et en fait, le jour est venu et j'ai dit à Stéphane, c'est bon, je vais te faire rencontrer Marinou et tu vas voir, c'est celle qu'il nous faut pour développer le digital. Et on s'est pas trompé, quoi.
Non, mais je trouve ça très intéressant. Et du coup, ça me parle particulièrement parce qu'en ce moment, je vais un peu la même chose. C'est vrai que, en fait, tant que t'es pas lancé, tu peux être seule à peu près.
C'est ça.
Moi, ça a clairement été ça. Je ne sais quoi. C'est qu'on était, bon, moi et la styliste, parce que du coup, j'avais même pas l'expertise que t'avais des laboratoires. Parce que de toute façon, t'es pas lancé. À partir du moment où tu te lances, et c'est là où, heureusement, j'ai recruté Oriane, qui est mon bras droit, juste avant, mais genre 3 mois avant le lancement. Et elle m'a dit rapidement, en fait, il faut qu'on commence à penser à quand tout
à
ça.
Vraie,
moi, j'étais très naïve. Je disais, attends, moi, je venais d'embaucher Oriane. Je me suis dit, attends, c'est bon, maintenant, on est deux. Ouais. Tu vois, pour moi, c'est déjà un énorme
avancé. C'est le fameux coup d'après dont on parlait tout à l'heure.
Exactement. Ouais. Et en fait, c'est vrai qu'à partir du moment où tu lances, il y a tellement de sujets. Il y a le service client, il y a la logistique,
il y a
le développement des prochaines collections. Parce qu'en plus, du coup, dans la mode, il y a cette temporalité.
Tu lances, il faut déjà penser à tes prochains lancements.
Ouais, totalement.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste te reposer sur OK, j'ai lancé, je vais pouvoir me reposer. Non, t'es déjà dans la prise.
En fait, c'est clairement ce que j'ai fait pour le premier lancement. Résultat, le réassort, on l'a fait que 5 mois après. Et en fait, là, notre chef de produit qui était là juste 2 jours par semaine, maintenant elle bosse full time parce que, et ça fait du bien parce que maintenant on a un planning et parce que, mais c'est vrai que je trouve c'est vraiment difficile en effet de réussir à chaque fois. Enfin,
comment tu fais Louise pour cumuler tout ça?
Je fais, et c'est bon parce que j'allais demander après à Stéphane aussi comment il fait. Moi c'est plus, enfin franchement moi je fais juste parce que j'aime bien et j'aime bien avoir différents sujets. Et puis au final, c'est vrai que je me demande plus comment je faisais avant quand j'avais pas une petite équipe, parce que maintenant on a quand même du coup Oriane qui est mon bras droit, qui au final est un peu comme vous maintenant, ou très opérationnel et moi beaucoup plus dans la stratégie, la création, etc. Et puis on a une personne chargée de la clientèle et une personne chargée de la logistique et des produits. Mais c'est vrai que moi du coup, heureusement que chaque personne est vraiment compétente et experte dans son domaine, parce que c'est vrai que j'ai pas du tout le temps ni les capacités de les chapeauter. Et c'est là où moi parfois j'ai peur de me dire je les lance quand même vachement dans le bain, quoi.
C'est
que moi j'ai pas la capacité de former, quoi.
On a pas le choix de trouver des profils hyper autonomes
mais alors vraiment, quoi, qui n'ont pas besoin
autonomes, super des merdes, je le dis tous les jours,
ouais, c'est clair, ma peur c'est plus de me dire maintenant qu'à chaque fois que quelqu'un d'autre va arriver dans l'équipe, comment on arrive à insuffler, à regrouper, à vraiment transmettre en effet la vision. Et je pense, comme vous dites, c'est un truc du quotidien, quoi, de réussir à onboarder, de bien les inclure à chaque fois dans les réunions. Mais si vous avez des petits conseils à nous partager, n'hésitez pas, quoi. Peut-être d'expérience, est-ce que vous avez déjà remarqué ce qui a fait qu'une personne est restée et qu'une personne est partie, ou peut-être à un moment vous n'avez pas réussi à l'embarquer comme
alors
vous
là, personne n'est encore partie.
D'accord. Bah, tant mieux, hein, franchement.
On est plus.
Vous n'avez pas fait d'erreur, entre guillemets, dans l'embauche.
Non, en revanche, on a des stagiaires qui ne veulent pas partir. Ça c'est une...
malheureusement,
c'est fou.
Tant mieux, c'est mieux.
Non, mais c'est dingue.
Non, moi, d'autres vies, dans d'autres activités, je me suis souvent trompé en embauchant. Mais en fait, moi, ce que je retire de ça, de ces erreurs à l'embauche, c'est que c'est un peu comme tout. C'est un peu. On parlait tout à l'heure hors antenne de ton appart. T'en as visité pas mal, si j'ai bien retenu le bon. Avant de trouver le bon, mais quand c'était le bon, tu le savais. Je pense qu'il faut pas s'économiser ça pour les gens qui nous entourent.
Il faut pas hésiter à séparer de personnes si ça marche pas.
Alors, je voulais même pas en venir là. Je voulais
quand tu recrutes,
faut pas économiser ça.
Ah oui.
Voilà, c'est pas parce que le poste c'est pas ta sensibilité. Voilà, on va prendre le poste de comptable par exemple. Je pense pas que ce soit ta sensibilité première. C'est logique. Faut pas se dire du coup, comme c'est pas ma sensibilité que ça m'intéresse pas, de toute façon c'est chiant, je vais prendre un comptable ou une comptable. Non, c'est pas vrai, parce que tu prends le bon ou la bonne, ça sera bien au-delà de ce que tu imagines. D'un seul coup, ça va t'éclairer sur tes stocks, ça va t'éclairer sur ton financement, ça va peut-être être la personne qui demain va t'aider à faire une levée de fonds. Donc tu vois, ça a vraiment de l'importance en fait.
Plus parier sur les personnes que les postes, c'est ça que tu veux dire?
Ah ouais, ça c'est certain.
Et puis une
100%.
Personne, après, tu l'adaptes en fonction de ses compétences aussi. C'est-à-dire peut-être que tu l'as. Alors là, pas comptable, va pas devenir community manager demain. Mais en revanche, tu vois, là, nous, on est en train de chercher quelqu'un qui peut nous aider sur TikTok, qui sache faire du montage vidéo, mais peut-être finalement, ça va pas être la bonne personne pour faire du montage vidéo, ça va être la super bonne personne pour du TikTok.
Ouais.
Et le montage vidéo, ça va être une chef de produit développement qui va aussi, à côté, finalement, savoir faire du montage vidéo.
Ouais, ouais,
mais on
ouais.
utilisera ces compétences-là à ce moment-là. Donc, en fait, il faut aussi, dans une petite structure, on peut aussi se permettre, nous, d'être hyper polyvalents et de se dire, bah, tiens, finalement, toi, t'es dans le pôle digital, mais tiens, tu vas m'aider pour ce truc-là parce que t'es hyper bonne là-dedans aussi.
Ouais.
Enfin, d'essayer un peu de, d'attribuer du coup des missions différentes en fonction des forces.
Ouais. Hyper intéressant.
Et vraiment pas économiser ses forces et ses ressources et son temps au moment de choisir les personnes.
Ouais.
Parce que ça va vite au bout d'un moment d'en avoir ras-le-bol et dire bon, bah, je vais essayer avec un tel.
Ouais, non, il faut s'accrocher.
Ou alors, en tout cas, si on fait ça, il y a un corollaire absolu, c'est qu'il faut savoir se séparer très vite quand c'est pas les bonnes personnes.
Ouais. Mais on n'a pas envie de rentrer là-dedans. On a plutôt envie d'énergie.
Mais c'est très dur, c'est plus dur. De toute façon, c'est ce que tout le monde veut dire. Et puis après, ça, c'est la version sympathique, c'est la version où on construit une équipe. Donc on essaie de ne pas se tromper en la construisant, et puis si on se trompe, bah on ajuste. Déjà, c'est déjà un peu moins sympathique, ce genre d'ajustement. Mm. Mais après, il n'y a pas que ça. C'est que gérer du personnel, c'est aussi gérer des problèmes de personnel.
Mm.
Des problèmes interpersonnels,
ouais.
mais aussi des problèmes classiques qu'on a tous connus, parce qu'on a tous été salariés à un moment donné de notre vie. Voilà, donc on sait très bien ce que c'est.
Ouais. Mais justement, du coup, bah, je voulais quand même parler un petit peu...
Cette matière-là, elle n'est pas simple. Après, il y a le vrai truc dans tout ça, parce que depuis tout à l'heure, on fait une espèce d'ellipse un peu sympathique sur la chose, mais enfin, c'est quand même le financement, parce que nous, typiquement, la boîte, elle est bootstrappée depuis le début, donc c'est pas très commun, en fait. Là, on est arrivé en termes de niveau de développement, de croissance d'entreprise, etc., en ayant tout financé par nous-mêmes. C'est quelque chose qui est vraiment, je pense, assez incongru ou très, très étonnant.
Mais
voilà. Mais dans un schéma plus classique de financement, avec un seeding, etc., faut bien considérer ça, c'est-à-dire que les embauches parfois ça peut être la clé, comme je l'ai dit. Je veux pas dire tout et son contraire, mais ça peut être la clé, parce qu'encore une fois, c'est de cette matière humaine que naîtront des nouvelles idées, etc., des nouvelles fonctions pour l'entreprise, enfin tout ce qu'on a évoqué précédemment. Mais c'est aussi des coûts qu'on empile et qui s'en vont pas. C'est-à-dire quand on a un nouveau salarié, puis une nouvelle, puis une nouvelle, puis une nouvelle, sur l'année, quand on les a répartis dans le temps, ils pèsent en moyenne ils pèsent que la moitié, mais sur l'année d'après, ils pèseront l'année entière. Donc, on multiplie comme ça par deux les masses salariales en embauchant des nouvelles personnes. Il faut vraiment faire gaffe à ça, parce que c'est pour ça qu'il faut le faire. C'est essentiel. C'est de là que viendra. Enfin, ça accompagne et parfois ça fait même naître la croissance, comme évoqué encore une fois précédemment. Mais c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas se tromper.
Mm.
Parce que ça, une masse salariale, ça représente rapidement le poste principal
De tes dépenses
de l'entreprise. Ouais, ouais, et donc c'est ça et pas autre chose. Donc c'est tout ça, c'est un réglage assez subtil et qui dépend aussi de est-ce que tu commences déjà à générer des cash flows positifs ou pas. Ça dépend de ton activité. Par exemple, dans la tienne, je la connais pas, on n'a pas discuté de chiffres tous les deux, mais je sais que c'est complexe parce que y a beaucoup d'argent dans ton stock, forcément.
Ouais.
Et donc
après on a de la chance, on a eu de la chance moi j'ai la chance d'être autofinancée et d'être rentable dès le début, donc c'est vrai que c'est j'ai de la chance de non, pas
mais
avoir
on a un parcours semblable parce que
pour l'instant pas de stock permanent, en effet ça nous permet
ça
de
limite
pas
aussi, ça limite
totalement
pas mal de choses,
totalement, et j'espère que l'industrie de la mode va s'adapter à ça aussi, parce que c'est vrai que c'est un peu absurde en fait d'avoir à chaque fois à limite faire sur tapis pour pouvoir financer ton prochain stock. Ça n'a qu'un temps, quoi. Mais je voulais juste aborder un petit point, Stéphane, qui est comment tu gères ton énergie et aussi espace d'esprit, en fait, parce que pour le coup, moi aussi, j'ai différentes activités, et la chose avec laquelle j'ai plus de mal, c'est de devoir être tout le temps concentré sur différents sujets, et donc notamment sur je ne sais quoi, ou à Paris, je suis toujours...
De l'un à l'autre.
Alors sur l'énergie, je suis nul, moi je suis une énorme feignasse, comme t'as jamais vu de ta vie, et
ça se ressent pas.
Et sur l'esprit, ça en revanche, j'aime bien nourrir mon esprit avec plein de trucs différents.
D'accord.
J'ai toujours été curieux depuis tout petit.
T'arrives à être tout le temps en message avec Marjorie sur Charlotte Bio, et d'être sur d'autres sujets à la journée, et être tout aussi efficace. Moi, j'ai peur de me diluer, voilà.
Non, peut-être pas. Peut-être que je dis des bêtises ou que je confonds avec Marjorie un mal avec un autre.
J'ai deux petites dernières questions pour vous. Déjà, est-ce que vous pouvez chacun me recommander peut-être une ressource qui vous a aidé personnellement dans votre parcours, que ce soit un livre, un film, une ressource que vous aimeriez peut-être partager aux personnes qui nous écoutent.
Moi, je peux te répondre hyper spontanément là-dessus. Ouais. Je vais pas te recommander ni un livre, ni un film, ni rien de tout ça, mais juste d'observer les autres. Juste ça.
D'accord.
Parce que tout ce que j'ai lu, en fait, en développement personnel ou en coaching, etc., tous les mecs ou les nanas, c'est souvent des mecs, bon, c'est comme ça, tous te disent la même chose, te disent j'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup copié, j'ai beaucoup appris des autres. Et en fait, quand tu réfléchis bien, la nature humaine est faite comme ça. La génétique humaine est programmée comme ça. L'espèce humaine a créé sa survie comme ça, par l'apprentissage à travers la recopie, à travers le fait de te modeler, de te thermoformer au contact des autres. Voilà. On observe ça d'ailleurs maintenant chez les primates. J'observe ça tous les jours chez mes ados, tous les jours. Ils veulent rien d'autre. Ils ont tous les deux beaucoup de personnalité, vraiment. C'est des super mecs dont je suis hyper fier. Mais vraiment, eux, comme leurs copains, ils veulent pas grand chose. Alors, Marjo, je sais qu'elle a un exemple différent chez elle, c'est vachement intéressant. Mais eux deux, ils veulent pas grand chose de plus, quand même, globalement, que de ressembler à leur congénère, quoi. Voilà. À leur semblable. Mais je pense que ce phénomène-là, c'est un phénomène intime de la nature humaine qui permet l'apprentissage. Donc, moi, en fait, les trucs. En fait, quand on a des décisions à prendre avec Marjo, quand on a des grandes orientations à décréter, quand on a des problèmes qui surviennent, moi, je puise tout le temps dans des phrases, dans des actions, dans des observations que j'ai
dans
pu faire.
Dans des retours d'expérience.
Dans des retours d'expérience des autres que j'ai vus, que j'ai vécu à mes côtés, partout où j'ai bossé. Voilà. Et ce n'est pas forcément des personnes, des hommes ou des femmes qui étaient beaucoup plus âgés. Parfois, c'est des gens qui étaient plus jeunes que moi, mais auprès desquels j'ai appris juste. C'est pas possible.
En fait, on apprend tellement de tout le monde. Nos rencontres et tout, totalement. C'est essentiel.
Donc moi, je pense que c'est ça le plus important.
Ok. Et Marjorie, pour toi, ce serait quoi?
Mais c'est un peu pareil, si tu veux. Moi, je suis pas une grande lectrice de développement personnel, voire pas du tout, parce qu'en fait, on se découvre. Déjà, c'est dur de se découvrir, de se connaître vraiment. Voilà. On est toujours dans l'action, mais une chose qui est certaine, c'est que c'est les autres qui t'ouvrent les yeux, qui t'apprennent à te connaître toi-même, à savoir qui tu es, d'où tu viens, et puis à savoir à qui tu veux ressembler aussi, si tu veux. Et les rencontres, les amis, la famille, nos enfants, franchement, moi, mes enfants, c'est pareil, ils me guident aussi tout le temps. Mon mari, pareil. Enfin, voilà, on est dans un modèle où les rencontres sont très précieuses. Et il y a un bouquin, en revanche, que j'ai envie de lire par rapport à ça. C'est le nouveau bouquin de Charles Pépin. Alors, moi, j'ai jamais lu Charles Pépin, mais j'ai entendu parler de lui là, récemment. Il a justement écrit ce bouquin-là sur ça, sur les rencontres qui te construisent. Alors, je ne l'ai pas encore acheté, mais il est encore sur ma to-do, tu vois, de livres à lire qu'on a tous. Et on ne trouve jamais le temps de les ouvrir. Mais
en effet,
j'ai envie d'essayer de creuser un peu.
J'adore. C'est une recommandation de livre à lire qu'on n'a pas encore lu.
C'est pas mal.
Alors récemment, je viens de lire la biographie de Phil Knight,
le créateur de Nike. L'art de la victoire.
L'art de la victoire, ou Shoe Dog en anglais.
Ouais.
Honnêtement, c'est génial. Parce qu'en plus, il n'y a pas que l'expérience entrepreneuriale qui est partagée, il y a son expérience de vie personnelle, il y a tous ses doutes, etc. Et puis il y a un truc qui est passionnant, c'est que c'est une vraie recomposition de l'Amérique des années 40 et 50. Moi, je ne pensais pas que c'était aussi vieux.
C'est
un vieux monsieur.
Non, c'est un vieux monsieur. Après, moi, en ce moment, j'ai un peu de mal.
Tout cet esprit universitaire américain qui est vraiment génial.
Mais le livre est très bien, c'est vrai.
Ouais, on a du mal avec Nike et les Ouigo.
Mais c'est son parcours de vie là, qui est décrit. C'est vraiment génial.
Vraiment intéressant. Bon, du coup, je vous pose la dernière question, la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour vous, prendre le pouvoir de sa vie?
Ok. C'est être libre, libre de ses choix. Je sais pas, prendre le pouvoir de sa vie, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire avoir la possibilité de contrôler aussi tout ce qu'on a envie, mais choisir ce qu'on a envie de contrôler, tu vois, pour pouvoir s'épanouir, s'éclater. Et toutes les choses, toute la vie, elle se déroule. Et puis l'optimisme aussi. On n'en a pas beaucoup parlé de l'optimisme, mais on a toujours cru, nous, en la réussite de notre boîte, en la réussite de notre parcours et tout. Stéphane, peut-être encore plus que moi, je pense, là-dessus. Mais vraiment, ça nous guide, cet optimisme, cette envie, cette notion de... on profite vraiment de l'instant.
Super.
C'est ça.
Merci beaucoup, Marjorie. Est-ce que Stéphane, tu veux ajouter quelque chose?
D'un mot, juste pour compléter sur l'optimisme, moi, je me définis comme un optimiste, mais qui voit les choses en noir. C'est-à-dire que je suis toujours plus intéressé par ce qui ne va pas. Je suis obsédé par ce qui ne va pas dans l'entreprise parce que je me dis que c'est des points d'amélioration et puis c'est des erreurs à ne pas reproduire. Je ne regarde que ça. Quand on rencontre notre distributeur, je lui dis tout le temps la même chose, ça les fait sourire. Je leur dis, arrêtez de me raconter ce qui va bien, racontez-nous ce qui ne va pas, tout le temps. Je lis tout le temps les retours de nos consommatrices sur les réseaux sociaux et sur la boîte mail, je lis tout le temps. Tout ce qui arrive, je lis tout. Bah parce que ça nous informe sur
bah
ce
ouais,
qui ne va
bah
pas.
Ouais. Et c'est comme voilà. ça qu'on s'améliore. Mmh.
C'est clair. Et c'est voilà, clair. C'est comme ça qu'on peut avoir un truc qualité mieux que sur des idées préconçues. Mmh. Mais pour autant, Marjorie a raison, mais elle aussi est très optimiste.
Ouais, ouais.
Oui, j'ai une ambition sans limite pour l'entreprise, bien sûr. Mais comme objet, quoi, pas pour des questions de réussite sociale, financière. Juste pour, comment dire, pour l'aventure.
Ouais.
Là, je me dis, cette aventure, ce chemin, ce voyage, il doit aller le plus loin possible.
Ouais.
Quoi.
Ouais, c'est le vrai aventure.
Et pour toi, prendre le
verbe.
Maintenant,
pour répondre à ta question, c'est faire. En fait, ça, c'est un verbe. C'est le verbe faire. Voilà.
D'accord.
Faire les choses. Il faut faire. Mais pour moi, ça c'est même dans une journée, même dans une demi-journée, même dans une matinée. Il y a une différence entre faire et pas faire. Voilà. Ouais. Et ça, c'est pareil. C'est un truc que j'ai observé parfois chez les autres. Voilà. Je me suis dit, pendant que je fais pas, pendant que je pense, pendant que je réfléchis, pendant que je donne mon avis, lui ou elle fait. C'est ça qui compte, quoi.
Ouais.
Moi, je répète ça tout le temps à mes enfants. Je leur dis tout le temps, quand ils étaient plus jeunes, je leur dis tout le temps, vous allez vous poser des questions avec l'adolescence entre être, paraître, avoir. Et puis, vous allez vous rejeter certains de ces verbes comme des non-valeurs. Au contraire, vous allez vous rapprocher d'autres, etc. Mais en fait, vous ne posez aucune question. Tout ça, ça va se faire assez naturellement quand vous ferez. Voilà, faites des choses. Faites des choses.
C'est comme
plutôt que de t'imaginer. Alors, l'imagination et l'ennui qui nourrit l'imagination, c'est essentiel pour nourrir la créativité. Mais créer dans la nuit, créer dans ses rêves, créer dans ses rêveries, c'est génial. Mais après, il faut faire.
Ouais.
Faut faire des choses. Voilà. Donc, pour moi, prendre le pouvoir de sa vie, c'est faire. Voilà.
Génial.
Et c'est ce qu'on a
réussi à faire.
Réalisé. Je cherchais un signe le plus simple. En faisant Charlotte et en faisant nos gammes, en faisant nos produits. Voilà.
Super, bah merci.
De rêver, on fait quoi.
Merci beaucoup d'être venu sur InPower.
Merci à toi, Louise.
Passionnant.
C'était super.
Vraiment. Pour les personnes qui maintenant veulent en savoir plus sur Charlotte, où est-ce qu'on les redirige?
Sur notre e-shop.
Ouais.
Sur notre Instagram.
Ouais.
Et Charlotte Bio.
Ok.
Et sur charlottebio.fr.
Super. Ouais. Bah, je mettrai
et
tout
en,
ça.
Et en grande distrib.
Ouais,
en grande distrib
aussi.
C'est accessible très facilement en grande distrib.
Ouais, on est bientôt 700 magasins, donc on est un peu partout en France.
Trop cool. Je mettrai tout ça dans les notes du podcast.
Génial.
Et à très vite, j'espère.
À très vite.
Merci.
Merci, Louise.
Merci de vous être rejoint à ma conversation avec Stéphane et Marjorie. Si elle vous a plu ou inspiré, n'hésitez pas à nous le faire savoir en story et en post Instagram en nous taguant @wearcharlottebio et @mybetterself. On est toujours hyper contents de voir vos retours. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser si vous souhaitez écouter d'autres épisodes inspirants. Et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.